Bonjour mes frères et sœurs. Pas d'enlèvement de l'épouse pour demain. Non, monsieur. Et pourquoi? Je vais vous lire un texte et après je vais vous parler de toutes ces choses en plus en détail. C'est dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Je sais que certains diront que j'ai pas la bonne interprétation, mais tant pis. On verra bien le 24, et moi je vous dis le 24, personne n'aura été enlevé. Je vous lis, verset 36. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. » Voilà. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que ceux qui sont troublés cessent de l'être. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Mes frères et sœurs, nous vivons en communauté depuis 40 ans maintenant. Et précisément depuis août 1977, et on a appris beaucoup de choses en vivant ensemble, vraiment beaucoup de choses. Il n'y aura pas d'enlèvement demain, il n'y aura pas. Notre vision, elle n'a pas changé depuis 1977, simplement nous avons appris des choses. Nous sommes aujourd'hui donc à la veille du 23 septembre 2017. Beaucoup d'eschatologues et d'apprentis sorciers de tout poil ont annoncé que Jésus enlèverait son épouse demain. Je n'en crois pas un mot. Ils ont fait des calculs savants, entre guillemets, qui ne conduisent qu'à la confusion de ceux qui les écoutent. Voilà. En fait, ce sont des gens qui semblent érudits, parce que quand vous les écoutez, c'est phénoménal, les calculs, n'est-ce pas? Mais en réalité, ils n'ont un QI que de 24, et ils sont suivis sur YouTube par des gens qui ont un QI de 22. Voilà. Voilà. Il faut arrêter maintenant. Ça suffit. Et j'espère que le 24, ils demanderont pardon au peuple et qu'ils iront travailler à l'usine pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins et vivre normalement et qu'ils arrêteront de faire des vidéos stupides alarmistes comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet-là, hein. Donc, ce soir, ne croyant pas que l'épouse de Jésus-Christ va être enlevée, mais croyant au contraire qu'elle va rester sur terre, et qu'elle va passer par des chemins bien difficiles, je tiens à donner cet enseignement pour aider ceux qui vont tomber sur notre site et écouter ce message. Les églises actuelles sont des églises multidinistes, c'est-à-dire qu'elles reçoivent en leur sein n'importe qui, ou à peu près. Le droit d'entrée, c'est très facile, hein. Tu lèves ta main dans une réunion, si tu peux, tu verses une larme, tu te fais tremper dans l'eau, tu donnes ta dîme, tu viens en réunion, et puis voilà. Or, dans l'Église telle que Jésus l'a construite, c'est pas aussi simple d'entrer dans l'Église. Je vous ai parlé de la porte dernièrement, et vous pourrez les réécouter les messages si vous ne les avez pas en mémoire. Je vais approfondir ces choses ce soir pour que l'Église s'en inspire dans l'avenir, parce qu'il va falloir qu'elle s'organise correctement. Je dis pas que toutes les églises vont s'aligner, mais je pense que certains vont comprendre et que ce message va les aider. Quand on entre dans l'église de Jésus-Christ, nous venons chercher quoi? Un nouveau nom. Vous vous rappelez dans la Bible qu'il nous est dit que nous recevrons un nouveau nom, hein, à la fin. Eh bien, si nous sommes vraiment chrétiens, nous recevons ce nouveau nom et nous venons le chercher maintenant, c'est-à-dire une nouvelle identité. Un nouveau nom, c'est une nouvelle identité. On ne le recevra qu'à la fin, mais on est en train de travailler à tout cela. Le problème, c'est que dans les églises d'aujourd'hui, beaucoup de membres ne sont même pas chrétiens. Ils vous disent oui, Jésus-Christ est le sauveur, alléluia, alléluia, puis après ils vous disent qu'il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que sinon ils sont pas sauvés, etc., etc. Donc ils sont encore sous la loi. Ils croient qu'il faut ajouter des choses au salut que Jésus leur a donné sur la croix. Ils mélangent tout. Alors étant donné que ils veulent faire des œuvres, ben ils seront jugés d'après leurs œuvres, et comme la Bible dit que nul, il n'y a pas un seul qui est juste, ben ils annulent la grâce de Dieu pour eux. En fait, Jésus est mort en vain pour eux. C'est-à-dire que il souille le plan du salut parfait de Dieu en Jésus-Christ par une fausse croyance. Donc, je dis, ils sont même pas vraiment vraiment chrétiens. Ils aiment Dieu, mais ils ont du travail à faire encore pour comprendre. Ils sont mal enseignés ou ils ont mal compris. Je ne sais pas. Quand vous entrez dans la vraie Église de Jésus-Christ, dans son Église rétablie, eh bien, vous perturbez l'ordre établi. Vous vous immiscez dans une mécanique qui est juste, qui est parfaite, et selon l'ordre voulu par Jésus, selon les Écritures, et vous êtes un corps étranger, en fait. Je parle de l'Église rétablie, c'est l'Église communautaire, telle que Jésus la voulait dans, au début, dans, vous trouvez ça dans Acte 2, Acte 4, Galates 6, 6, etc. Et aussi le psaume qui dit « Ah, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble ». Vous êtes un corps étranger. Et chacun dans l'Église espère que vous allez être assimilable. Tout le monde l'espère. En vérité, en entrant dans l'Église de Jésus-Christ rétablie, vous entrez dans un organisme vivant. Vous n'entrez pas dans un club. Du dimanche matin, vous allez poser votre derrière tranquille. Non, vous entrez dans la vie, dans un organisme vivant. C'est certain que chacun a l'espoir que vous allez être un enrichissement pour tous et que vous allez être enrichi par tous. Hein, mettre en commun ses biens, c'est pas seulement mettre en commun ses biens matériels, mais c'est aussi tout. On met tout en commun et c'est un enrichissement pour chacun. Et c'est pourquoi Jésus parle de la porte étroite. Parce que c'est pas facile de passer par cette porte. Vous y entrez, pour y entrer, il faut y entrer avec humilité. Et puis en se baissant un petit peu aussi. Hein, avec humilité. C'est comme la porte de la naissance. Quand on vient au monde, vous avez vu, c'est, la porte est toute petite. Hein. Et ben, c'est un peu aussi comme la porte de la mort. On ne franchit la porte de la naissance et la porte de la mort qu'en changeant. En sortant de votre mère, vous passez d'un monde à un autre. De même, quand vous mourrez, vous passez d'un monde à un autre. Et bien, la même chose lorsque vous entrez dans l'Église de Jésus-Christ, vous sortez d'un monde pour entrer dans un autre. Mais vraiment, vous faites pas partie, vous n'êtes pas simplement un adhérent à un club, comme je vous disais, du dimanche matin, ou, et puis après, vous retournez dehors, vivre comme vous voulez. Passer par la porte étroite de l'Église de Jésus-Christ, c'est à la fois un commencement et une fin. Une fin. La naissance et la mort sont les deux portes de la vie, si j'ose dire. Et entre ces deux portes, la naissance et la mort, il y a un chemin. Je dirais, il y a un chemin initiatique. Ne voyez rien d'occulte là-dedans. Il y a un chemin où vous êtes initié, vous êtes formé, vous apprenez les choses. Et sur ce chemin, vous allez encore rencontrer des tas de portes à franchir, des portes qui seront vos choix. Votre choix de vie, pour ceci, contre cela, vous aurez le choix de construire avec de la paille, avec des briques, avec du bois, avec du chaume, avec de l'or, vous avez toutes sortes de portes, c'est-à-dire des choix que vous aurez à faire sur ce chemin. Un changement d'état, toutes ces portes seront des portes de changement d'état, d'élargissement ou de rétrécissement de la connaissance, de la conscience. Et tout ce que vous allez vivre sur ce chemin, allant de votre entrée dans l'Église de Jésus-Christ à votre mort, mais tout cela, ça a un but. Le but, c'est de vous faire entrer vivant dans la mort. Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Le but, c'est que vous entriez vivant dans la mort. Vous voyez ? Donc, on entre dans l'Église de Jésus-Christ avec respect, avec humilité, sachant que là, il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on va apprendre, et on va se tenir un peu à carreau pour apprendre, n'est-ce pas? On arrive pas avec nos grands sabots, en disant « j'ai ceci, j'ai cela », comme si non, on est humble. La parole de Dieu se dresse devant vous comme une épée à double tranchant. Elle perce votre cœur parce que c'est pour laisser entrer la lumière en vous. Parce que jusque-là, vous avez été aveugle et vous avez été sourd, vous aviez des yeux et vous ne voyiez pas, vous aviez des oreilles mais vous n'entendiez pas. Vous pensiez voir, mais vous ne voyiez pas. Vous pensiez comprendre, mais vous ne compreniez pas. Par exemple, le verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Quand on vit en communauté, ça prend une toute autre dimension. « Aime ton prochain comme toi-même ». Les gens dans les églises, déjà, ils n'arrivent même pas à se supporter. Ne venez pas me dire le contraire, je connais. Je connais. Et là, la lumière, elle va apparaître. Ah, tout à coup, vos yeux vont s'ouvrir, vos oreilles aussi. Et vous allez apprendre, vous allez apercevoir que la lumière, elle était déjà en vous, mais c'était comme un trésor qui était caché. Parce que vous avez une origine divine. Mais la parole de Dieu, qui est une épée, est là aussi comme un avertissement. Une épée, c'est quand même une arme aussi. Vous allez devoir vous armer de courage, c'est un avertissement. Vous allez devoir vous armer de fermeté, c'est un avertissement, attention. Pourquoi ce courage? Pourquoi cette fermeté? Ben parce que l'enseignement des apôtres est un chemin de transformation. Vous n'entrez pas dans l'Église pour rester comme vous étiez avant. C'est un chemin de découverte, c'est-à-dire que vous allez devoir être souple, malléable pour comprendre, croire, admettre certaines choses que vous ne pouviez même pas comprendre avant. Et ça exige du travail, ça exige du renoncement et même parfois des souffrances. Des souffrances. On a vu tant de personnes depuis 1977 qui ne pouvaient pas abandonner leurs illusions, elles ne se rendaient pas compte même que le chemin, Jésus est le chemin, que le chemin c'est le chemin du dépassement de soi. Et puis c'est pas facile. Ce n'est pas le chemin large des pêcheurs, c'est pas le chemin du plus grand nombre, non, non. Alors les frères et sœurs, s'assure que vous êtes vraiment bien enraciné dans votre détermination, que vous voulez véritablement, et puis vous pouvez toujours vous retirer, hein, vous pouvez toujours sortir, il n'y a pas de problème, on n'est pas une secte. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une secte. Jésus dit que, mais quand même, avant de vous engager, il dit quand même, asseyez-vous et réfléchissez. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'au bout? Ah. Plein de gens renâclent devant les obstacles. Plein de gens refusent de se transformer, de transformer leurs habitudes. Ou alors ils comptent sur une espèce de magie. Dieu va le faire, c'est Dieu qui va le faire. Je prie que Dieu me change. La personne qui s'engage sur le chemin qui est Jésus, en fait c'est un téméraire, c'est un audacieux. C'est un être qui est doté d'un sacré courage. Parce que l'accès à la vraie lumière ne s'effectue pas sans difficulté, sans combat. C'est pourquoi on invoque toujours notre Père Céleste au nom du Seigneur Jésus-Christ pour avoir le secours en temps voulu, l'aide par le Saint-Esprit. Alors, si la personne qui entre dans l'Église de Jésus-Christ et travaille sérieusement à sa propre transformation, eh bien, elle construira selon les principes de la sagesse, de la force et de l'harmonie. On va revenir sur ces trois choses, je pense, dans les prédications suivantes. Et alors, on verra réellement Dieu dans cette personne. Ah, pourquoi je dis ça? Eh bien, écoutez, prenez Hébreux 12, 14. Je vais vous lire ça dans le Nouveau Testament, un livre juif traduit par David H. Stern, aux éditions Emmet Éditions. Écoutez bien. Hébreux 12, 14. Recherchez le shalom avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alors, je sais que dans les versions second et compagnie en général, c'est écrit « Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Qu'est-ce que signifie ce texte sacré? Eh bien, dans les églises, on nous dit généralement que si vous n'êtes pas sanctifié, eh bien, vous serez perdu. Vous irez en enfer, vous ne verrez pas le Seigneur. J'ai cru ça pendant un temps. Ben, c'est pas vrai. Maintenant, ce que je lis, c'est autre chose. Je lis que nous devons rechercher la paix avec tous et la sainteté, la sanctification, car si nous ne faisons pas cela, personne ne verra le Seigneur en nous. Est-ce que vous avez compris? Vous pouvez avoir Jésus comme sauveur, mais être un faiseur d'histoire, qui cancane entre les portes, qui sème la division, qui crée la division, qui accuse les frères. Mais vous avez quand même Jésus en vous. Mais vous ne faites pas la paix. Vous ne cherchez pas la paix, vous cherchez la discorde, vous cherchez le pouvoir, vous cherchez... Vous êtes une personne qui ne marche pas bien dans l'Église, selon les principes de Jésus-Christ. Ok, vous n'êtes pas perdu à cause de cela. Par contre, nul ne verra le Seigneur en vous. On ne voit pas le Seigneur en vous. Et votre présence dans l'Église de Jésus-Christ sera un fardeau pour tous. Alors, il y en a qui vous suivront un temps, puis après ils commenceront à en avoir marre. Et alors ils vous quitteront, 3 jours. Puis après ils reviendront, ils se repentiront, puis ils vous quitteront. Puis ils reviendront, puis ils se repentiront, ça marchera un peu, puis après ils vous... Et puis un jour ils vous quitteront pour de bon. Vous devez être, parce qu'ils ne reconnaîtront pas Jésus en vous. Vous devez chercher la paix avec tous et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur en vous. Je sais de quoi je parle, hein. Et je sais même de qui je parle. Pour avoir vécu avec des gens pénibles, mais pénibles, sauvés, soit, mais pénibles. On voyait vraiment pas Jésus en eux, hein, pas du tout. On voyait que leur ego. Enfin bref, là je suis en train de m'éloigner. Dans la vraie Église de Jésus-Christ rétablie, donc la communauté, on fait la différence entre spiritualité et religion. La vraie religion, c'est de venir en aide aux veuves, aux orphelins, etc. C'est ce que la Bible dit. La spiritualité, c'est autre chose. Bien que la religion en fait partie. Dans la vraie Église de Jésus-Christ rétablie, il y a un message ésotérique. Ouh, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, c'est un message qui est réservé aux membres, aux disciples. Jésus ne disait pas tout à tout le monde. Il prenait ses disciples, il leur expliquait à part. Aux autres, il disait tout, mais sous forme de parabole. Qu'on peut interpréter. Qu'on ne comprend pas forcément. Mais à ses disciples en particulier, il leur expliquait tout. Donc Jésus avait un message ésotérique, c'est-à-dire pour ses disciples, puis un message pour tout le monde. Ben, Jésus n'a pas changé. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans les églises clubs humains, le message est exotérique, c'est-à-dire il est pour tout le monde. C'est pourquoi, dans ces églises traditionnelles, le message est un peu, bétifiant. Donc, un vrai disciple, et non un chrétien basique, est obligé d'obéir à la loi morale. Le chrétien basique, il est sauvé. Mais le disciple, il est obligé d'obéir à la loi morale. Parce qu'il est disciple, il se discipline. Ça veut dire qu'il s'oblige. Personne ne l'oblige, il s'oblige. Il n'agira pas comme un athée ou comme un libertin. Ce que font souvent les chrétiens dans les églises traditionnelles. Hein. Allons. Sont-ils perdus? Non. Ils croient en Jésus, ils invoquent le nom de Jésus, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ils croient au Seigneur Jésus, ils sont sauvés, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Le problème, c'est que personne ne peut se sauver par ses propres œuvres. Et cela, la Bible dit, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Donc on ne peut pas se sauver par nos propres œuvres. On est sauvé par Jésus-Christ seul. Et si vous croyez pouvoir ajouter quelque chose à votre salut par vos œuvres de sanctification, vos bonnes œuvres, vos gentillesses, etc., ben vous êtes sous la loi et non sous la grâce. Vous pensez que vous pouvez ajouter quelque chose à votre salut. Eh bien, si vous pensez que vos bonnes œuvres peuvent vous sauver, vous serez perdu. Parce qu'il n'y a pas un seul juste sur la terre, la Bible dit. Et la Bible dit aussi que si vous désobéissez à un seul commandement, vous avez désobéi à tous les commandements. Et le critère de Dieu, c'est la perfection. Il veut la perfection. Or, vous ne pouvez être parfait que par Jésus-Christ le Sauveur. qui vous sanctifie, qui vous met à part pour Dieu. Alors après, il faut se sanctifier soi-même, c'est sûr. Comme il est dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Mais ça, ça ne veut pas dire faire quelque chose pour être sauvé. Non, ça signifie travailler à votre... Comment expliquer ça? Vous allez dire, je suis charnel, bon ben tant pis. Bon, ça fait 2 mois, j'ai repris la musculation. Et avec mon frère Stéphane, j'y vais 3 fois par semaine, pendant 1 heure comme ça, le matin. Et on travaille le haut du corps, on travaille le lendemain, on travaille le bas du corps, parce qu'on ne peut pas travailler les épaules, puis tout de suite après les cuisses, ça fait un problème, n'est-ce pas, avec la pompe, avec le cœur, le sang, n'est-ce pas, l'afflux de sang dans les épaules, puis après vous le mettez dans les cuisses, c'est trop. Donc on travaille d'une façon disciplinée, et donc 1 fois par semaine, je fais les bras et les épaules, c'est-à-dire le haut du corps, ou les pecs aussi. Je ne peux travailler mes bras que parce que j'ai des bras. Je ne pourrais pas travailler mes bras si je n'avais pas de bras. Et si j'arrête la musculation, ben je garderai mes bras. Ils seront moins gros, ils seront moins définis. Ben, il en va de même pour le salut. Vous ne pouvez travailler à votre salut que si vous avez le salut. Que si vous êtes sauvé, c'est-à-dire si vous croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur et ce qu'il a fait à la croix pour vous sauver. Si vous croyez ça, vous êtes sauvé. Alors pourquoi travailler à votre salut? Ben pour avoir la récompense à la fin, d'avoir accompli des efforts qui magnifient votre salut, qui glorifient Dieu, qui vous donnent la satisfaction du travail bien accompli. Et vous le faites très sérieusement. Vous aurez servi à quelque chose sur la terre. Ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose pour être sauvé, mais vous avez fait quelque chose parce que vous avez été sauvé, pour louer Dieu, pour remercier Dieu et pour être utile. Bon, allez, je m'éloigne de nouveau de mon sujet, mais c'est quelque chose que j'avais sur le cœur de vous dire, je vous le dis. Mes frères et sœurs, vous qui êtes passés par la porte étroite de l'Église de Jésus-Christ rétablie, c'est-à-dire la communauté, vous n'êtes pas que des chrétiens d'Église. Vous êtes des disciples, Luc 14, 33. Comme Jésus dit, nul ne peut être mon disciple à moins d'avoir renoncé à toute chose. Vous avez renoncé à tout, vous avez mis au pied des apôtres, comme la Bible dit de le faire, et vous êtes maintenant des disciples. Et les disciples, un disciple, c'est un ouvrier de paix, rechercher la paix avec tous. Vous avez quitté le tumulte du monde les églises apostates ou dissidentes ou voilà, enfin vous m'avez compris, et vous êtes œuvrant dans un lieu de paix. Vous œuvrez à votre paix intérieure, vous travaillez à votre paix intérieure. Vous êtes dans un travail d'apaisement de vos désirs, de vos pulsions, et cette paix en vous est une harmonie qui est porteuse de sagesse, pour vous, mais aussi pour les autres. Vous avez fait taire ce qui fait la guerre. Qu'est-ce que c'est qui fait la guerre? Le désir de pouvoir, l'envie, la jalousie, la possession personnelle, l'instinct de domination, je veux être le chef à la place du chef, toutes ces sortes de choses. Dimanche, je continuerai à expliquer bien des choses afin que vous soyez édifiés. Je pense que déjà, avec ce que je vous ai dit ce soir, vous voyez un peu plus clair. C'est sérieux d'entrer dans l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut réfléchir. Et si vous êtes dans une église, ce qu'on appelle une église dénominationnelle, ce que j'appelle les clubs chrétiens humains, eh bien, réfléchissez à tout ce que je vous ai dit. Réfléchissez, dites-vous, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, je sais déjà une chose, c'est que Jésus ne revient pas le 23 septembre, comme les gens le disent sur YouTube. Il me reste encore un peu de temps pour faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, Jésus, je te prie que tu aides mes frères et sœurs à réfléchir et à prendre les bonnes décisions, ouvrir les bonnes portes et à faire ta volonté afin que tu sois glorifié. Que l'Église s'en trouve bien et qu'ils soient satisfaits eux-mêmes d'avoir fait un travail bien accompli. Père, je te le demande dans le nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez, au revoir.